Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission de Cinérama du mercredi 31 octobre. Qui dit 31 octobre dit bientôt 1er novembre. Qui dit novembre dit pluie. Effectivement, on y est, c'est un temps de cinéma. Bonjour Marine.
Bonjour, en fait j'aurais plutôt dit Halloween. Je pensais que tu allais enchaîner sur une histoire de film d'horreur. Enfin bref.
Pas du tout, pas du tout. Donc, une émission de Cinérama aujourd'hui en duo seulement. On salue Manu qui reviendra la semaine prochaine. Et puis on va développer le sommaire qui est plutôt copieux.
Oui, alors moi je vais vous parler de Skyfall, le dernier James Bond, et pas du tout du Cinemed. Et j'en profiterai pour vous faire faire un petit quiz. Bon, alors les joueurs vont être assez limités, je pense. Mais voilà, comme ça tu auras toutes les chances de ton côté, Vincent. Pour une fois, tu vas peut-être gagner.
Ouais. Mais ça m'est arrivé de gagner au blind test quand même, des fois. En tout cas, je me suis occupé de la partie Cinemed, puisque en ce moment, c'est le Festival du cinéma méditerranéen qui s'achève ce samedi. Et on en a profité, finalement, pour demander à trois réalisateurs du bassin méditerranéen comment se passait, quelle était la santé du cinéma finalement dans leur pays. Alors ce sera contrasté parce qu'on a choisi l'Italie, le Maroc et l'Algérie, donc ça ce sera à la toute fin de l'émission. Mais on va commencer avec une petite interview de Jalil Lesper, donc qui était un invité du festival, un des nombreux invités. À noter que Jalil Lesper, on en a parlé un peu la semaine dernière, il a commencé avec ce court-métrage Jeux de plage de Laurent Cantet, il a fait Nos vies heureuses de Jacques Maillot, il a eu le César du meilleur espoir masculin pour Ressources humaines, et ça a plutôt bien tourné pour lui, puisqu'après avec cet espoir il a continué de tourner sur notamment Pas sur la bouche de Alain René et puis Le petit lieutenant de Xavier Beauvois, entre autres. On l'a donc rencontré, plutôt impressionnant. Marine.
Oui.
Donne tes impressions sur Jalil Lesper.
Il est tellement beau et tellement charismatique.
Et donc, il va nous parler de sa double facette, acteur et réalisateur.
Cinérama. Sur Divergence FM.
Oui, il y a toujours la question de légitimité et de côté enfant gâté. C'est un enfant gâté, quoi. Il fait son film. Alors, c'est sûr que on te donne ta chance et que tu te plantes. C'est tellement dur que tu sois Sandrine Bonner, Gad Elmaleh, qui était là, qui a réalisé un film, on en avait parlé. Même pour lui, c'était compliqué. Généralement, si tu le fais pas pour de bonnes raisons, tu réitères pas l'expérience. Parce que c'est trop d'énergie, c'est trop d'engagement, je crois.
Moi, j'ai besoin de vous sentir avec moi à 100%.
Est-ce que c'était trop jeune? Est-ce que j'étais attendu au tournant? Tout le monde est attendu, on est tous attendus au tournant. Un peu plus. Disons que t'as la chance, évidemment, qu'on t'aide un peu plus au départ. C'est une industrie, le cinéma aussi. Donc, il y a un attrait un peu de la part des financiers, d'un seul coup. Il y a aussi le fait qu'on connaisse des techniciens, qu'on connaisse le plateau, qu'on connaisse des acteurs. Donc, on arrive un peu. Quand on réalise un film, c'est un peu comme une fête. On dit aux gens, écoutez, voilà, j'ai écrit ça, ça raconte ça. Est-ce que vous pouvez venir tel jour, telle date? Et puis, on va faire un super projet ensemble.
C'est bon, combien tu veux? Vas-y, 600. 600, tu veux? Tiens, vas-y, prends 600. Vas-y, dégage.
Fais donc, tu veux, mais t'es un ouf, toi, quoi? C'est toi, ce type, quoi! Putain!
Donc t'arrives à convaincre les gens, mais derrière évidemment t'as un peu plus de perdu braqué sur toi. Donc dès qu'on a envie de faire un film ou d'y participer, on est forcément jugé à un moment donné, mais faut pas trop en avoir peur. Mais je me suis pas senti prêt à être lynché. Tout va bien quand même. Ça va.
Pas sur la bouche, le nouveau film d'Alain René avec mesdemoiselles Sabine Azéma, Isabelle Nanty, Audrey Tautou et messieurs Pierre Arditi, Darry Cole, Jalil Lesper, Daniel Prévost, Lambert Wilson et... Sans André Dussolier. Sans André Dussolier. Avec un couple jeune, Audrey Tautou et Jalil Lesper. Audrey Tautou et Jalil l'espère.
Moi, c'est une chose que j'apprécie grandement, les rencontres. Et ce métier-là m'a fait rencontrer des gens formidables. Tout ce qu'hier, même si maintenant on se connaît depuis quelques temps, mais de recroiser Michel Simon et de parler avec lui, tu te dis, bon, c'est quand même, c'est pas rien, c'est intéressant, quoi. Donc quand on aime le cinéma et qu'on a l'occasion de rencontrer Alain René, de travailler avec Alain René, d'être sur le plateau et d'entendre que le chef machinot, tout le monde l'appelle Monsieur Bouladou, et de croire que c'est une blague parce qu'il est machinot et qu'on utilise des barres Bouladou, et que t'as 25 ans, on te fait, ah non, mais en fait, c'est l'inventeur des barres Bouladou. Alors, bon, tout le monde ne connaît pas les barres, mais quand on fait du cinéma, on sait que c'est très très important, c'est pour accrocher les projecteurs. Enfin voilà, tout. De rencontrer le fils de Buñuel, j'ai fait des rencontres formidables. Là, j'ai peut-être croisé le fils de Rossellini, c'est incroyable. Pour moi, c'est des choses très fortes. En tout cas, moi, ce que j'aime dans mon parcours d'acteur, c'est que j'ai fait mes classes avec, que je continue d'ailleurs à les faire, parce que je trouve que l'acteur, pour moi, c'est un peu comme un petit artisan qui va se mettre au service d'un réalisateur. Alors, s'il tentait que ce réalisateur est quelqu'un de doué et qu'il a une vision, ça peut que te nourrir à titre personnel. Et évidemment, moi, ça me nourrit à titre professionnel, artistique. Évidemment, ça m'aide aussi dans ma carrière, entre guillemets, de réalisateur.
Prendre le petit déjeuner, il faut s'habiller. Et après, il faut partir.
On part alors, maman.
Voilà, d'accord. Mais après, tu mets le turbo, hein? Clément, passe-moi le beurre, s'il te plaît. Je les dépose parce que je dois être à l'hôpital à 9h.
Tu fais chier, Sarah. Tu me préviens toujours au dernier moment. Putain, entre tes gardes et les enfants, j'arrive plus à bosser, moi.
Non, mais attends, c'est ma faute. C'est notre faute si t'es pas foutu de terminer ton roman.
Putain, je rêve. Je passe mon temps à bosser la nuit pour être au calme. Regarde ma gueule. Je suis crevé. OK? Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va s'organiser. Je vais appeler la nounou. Comme ça, je vais partir de 3 jours pour finir ce putain de roman.
Attends, j'ai 4 mômes qui sont entre la vie et la mort à l'hôpital. Je vois à peine les miens. Et toi, tu me dis que tu veux te barrer pendant 3 jours?
Bien sûr. Toi, t'es le médecin qui sauve des vies. C'est très noble. Et moi, je suis le petit écrivain qui fait chier tout le monde, c'est ça?
Je connais par cœur ce refrain. Ça fait 10 ans que tu me le chantes.
Tu disais pas ça au début, hein. Ça te plaisait de vivre avec un écrivain.
C'est vrai. À 20 ans, c'était marrant. Mais il y a un moment, si tu veux, faut se bouger.
Sarah, je suis écrivain, je suis pas boulanger, ok?
C'est justement ça le problème.
Pour moi, un scénario, c'est mathématique, en fait. Et ça a été dur de l'envisager pendant longtemps. Je me suis dit, non, c'est de l'art, ça doit pas être mathématique. Et en fait, quand tu décortiques. Des films comme Amadeus, en passant par Le Parrain, ou j'en sais rien, peu importe.
Ça démystifie.
Oui, non, et quelque part, ça rend plus, en effet plus humain, plus humble, mais il y a des règles assez immuables. Alors, il faut. Après, le langage évolue, et il faut évoluer avec, et le faire évoluer. Et il y a des films comme ça importants qui mettent des coups de pied à la fourmilière, mais il y a néanmoins toujours des bases assez communes dans la narration. Et ça vient ça vient de l'Antiquité. Donc voilà, on reproduit des schémas qui fonctionnent. Et je trouve ça intéressant de. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'il y a une ligne comme ça de crête à tenir entre des impératifs artistiques, mais aussi économiques. Faire un film, ça coûte beaucoup d'argent. C'est beaucoup de travail pour beaucoup de gens. Donc le réalisateur est toujours comme ça à essayer de tenir. Une équipe, un financement et en même temps une direction artistique. Donc c'est un scénario, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut se faire plaisir, en même temps, il faut faire avancer une histoire. Parce que sinon, le spectateur, le temps qu'il réalise, comprenne de quoi on parle, et on l'a déjà perdu, en tout cas pour beaucoup. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de faire en sorte que le spectateur soit ému au bon moment.
Tu sais, je crois qu'on idéalise beaucoup, hein. On se pose beaucoup de questions, on a l'impression de se faire des plans, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. On pense, on croit savoir, mais on ne sait jamais.
Benoît Magimel qui joue dans les 2 films réalisés par Jalil l'Espère, 24 mesures et des vents contraires qu'on a entendu en extrait. Donc pendant cette interview, à noter qu'il a aussi réalisé le clip Tender pour le groupe Stuck in the Sun qui est passé il y a peu à Montpellier. On va en terminer avec Jalil l'Espère en disant que demain jeudi 1er novembre, salle Rabelais, il y aura un hommage à Jalil l'Espère avec les courts-métrages dans lesquels il a joué. À 12h, Vivre me tue, à 14h 20h, Ligne de front. Et puis à 22h, Le promeneur du Champ de Mars. Voilà, c'est Salle Rabelais. Et puis du côté du Corum, le soir.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et on passe à présent à Skyfall, le dernier James Bond. Alors, tandis qu'il se trouve en mission top secrète afin de récupérer une liste confidentielle contenant les noms d'agents infiltrés parmi les réseaux terroristes du monde entier, James Bond se fait abattre par erreur et par une femme, évidemment. Considéré comme mort par le MI-16, il coule des jours brumeux en Thaïlande, où il profite de sa retraite pour oublier le martini et boire des mojitos sur la plage. Mais lorsque le siège du MI-16 est victime d'une attaque, Bond décide de reprendre du service. Alors la première subtilité du film sera déjà de remettre en cause l'invincibilité de l'agent anglais qui à son retour n'est plus de prime jeunesse, usé par les tranquillisants, par la longue liste de femmes qui l'ont empêché de dormir après chaque mission et par le fait qu'il court quand même sur les toits depuis 1962, ce qui lui donnerait normalement un âge de 83 ans. Bien conscient que la période Pierce Brosnan a trop exploité le filon de l'agent flegmatique, les scénaristes de la franchise ont décidé depuis l'arrivée de Daniel Craig de changer leur béret état d'épaule et d'explorer le côté obscur de la force du personnage. Il en résulte un James Bond moins flambeur et plus fin psychologue, moins bien rasé et plus torturé, qui encaisse les hématomes et n'hésite pas à montrer ses failles. On franchit un pas de plus avec ce Skyfall, dans lequel Bond est carrément déclaré inapte au travail lorsqu'il cherche à revenir suite à son arrêt maladie au sein de l'entreprise MI-16 délocalisée par ses dirigeants. N'en jetez plus, on se retrouverait presque devant un film social de Laurent Cantet. Sauf que cet épisode est réalisé, et sa qualité lui doit beaucoup, par Sam Mendes, qui ne s'avérait pas jusqu'à présent être un spécialiste de l'action, mais qui nous réalise pourtant un des meilleurs James Bond qui nous a été donné de voir. Fini l'agent secret qui vote à droite, porte de grosses Rolex et courtise des top modèles, Daniel Craig se promène avec une bouteille de whisky à la main. Il est favorable au mariage gay, comme le laisse sous-entendre une scène d'anthologie qui fera hurler les puristes, mais je n'en dirai pas plus, car elle mérite à elle seule de voir le film. Même le titre, Skyfall, fait dans la sobriété, terminé, les demain meurent hier, les un autre jour ne suffit pas pour tes yeux et fini de mettre du doré à toutes les sauces, plus de Goldfinger ni de Goldeneye. Et quoi de mieux pour célébrer les 50 ans d'un personnage que de revenir aux sources. Ainsi, la scène finale se déroulera non pas dans un hôtel de luxe ni dans un centre-ville anéanti et à l'explosif, mais dans la maison familiale de l'agent 007, lequel affrontera seul une vingtaine de mercenaires armés seulement d'un vieux fusil de chasse écossais et aidés d'un couple d'octogénaires. Je vous le redis, James Bond n'est plus bling-bling. Et tant pis, si ce nouveau volet a coûté 200 millions de dollars lorsque James Bond contre Dr. No n'avait demandé à l'époque qu'un million de dollars de budget. Ici, comme en politique, l'important réside dans le discours. On ne nous refuse pas pour autant les quelques plaisirs coupables qui ont toujours fait le sel de la franchise. Une scène d'ouverture fracassante, au réalisme très discutable. Des scènes d'amour torrides à l'exotisme kitsch et un méchant au charisme absolument délectable interprété par un Javier Bardem qui volerait presque la vedette à Daniel Craig. Le passé de 007, encore inexploré au cours des précédents épisodes de la saga, est au cœur de cette nouvelle intrigue. Le scénario laisse la part belle au mystère qui plane sur son enfance et sur la mort de ses parents, donnant lieu à des scènes qui rappellent curieusement une autre franchise, celle de Batman, au point que certains dialogues paraissent avoir été directement extraits du dernier Christopher Nolan. Autour de James Bond gravite M, qui bénéficie cette fois d'un rôle prépondérant permettant à Judi Dench de creuser davantage son personnage. Une James Bond girl française, dont personne ne soupçonnera jamais l'origine puisqu'elle parle anglais et interprète une asiatique. En même temps, peu importe, puisqu'elle n'est là que pour vos yeux. Et une nouvelle recrue qui apporte le quota geek exigé à présent dans tous les films américains, le nouvel agent Q, interprété par Ben Whishaw, l'interprète du parfum. Et le mieux, eh bien, c'est que tout cela passe très bien. Le film joue avec le spectateur et ses a priori pour mieux ménager ses effets et distille avec humour de petites nouveautés de ci, de là, le tout apportant un vent de renouveau salvateur et redonnant un nouveau souffle au plus célèbre agent britannique à l'occasion de ses 50 ans de cinéma. Donc je vous le conseille, moi je l'ai vu en plein milieu du cinéma, ça m'a fait beaucoup de bien de voir un bon film avec pas mal d'action. Et en plus on peut le voir en VO sous-titré au Gaumont.
comédie.
Au Gaumont Comédie, voilà. Et puis en plus, James Bond est devenu socialiste, comme je vous l'ai dit, donc maintenant on peut aller le voir, voilà.
Et puis comme tu le dis, on peut aller le voir aussi pour le méchant Javier Bardem.
Ah hein, surtout, c'est un des meilleurs.
Les producteurs ont eu cette idée en le voyant, parce que je crois qu'il a à peu près la même tête que dans No Country for Old Men, où il jouait déjà un méchant, non?
Non. Ah. Alors, il s'est un peu transformé physiquement. C'est en ça qu'on peut faire un parallèle avec le film des frères Cohen. Disons que là, il est plutôt décoloré en blond. Et il s'est fait quelque chose au niveau du visage. Je ne sais pas exactement quoi. On dirait presque qu'il s'est fait une opération de chirurgie esthétique pour le film. Enfin, il a un côté très gay, en fait. Très gay et très... très apprêté, il est vraiment très bon dans ce rôle.
Et bien donc ça, c'était le Skyfall, maintenant on va jouer.
Cinérama. Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et donc, on commence ce quiz avec un extrait, un petit indice quand même, parce que sinon tu vas jamais trouver. C'est assez récent.
Oui?
Pour vous.
Je suis censée porter ça?
Je veux que vous soyez fabuleuse. Quand vous arriverez derrière moi pour m'embrasser dans le cou, je voudrais que tous mes adversaires pensent à votre décolleté et pas à leur jeu. Vous pourrez faire ça pour moi?
Je ferai de mon mieux.
Merci. J'ai déjà un smoking.
Oui, mais il y a smoking et il y a smoking. Celui-ci en est un. Et moi, je veux que vous ayez l'air d'être comme chez vous à cette table.
Comment? C'est du sur-mesure.
Je sais, je vous ai calculé immédiatement.
Donc ça parle d'adversaire, de table.
C'est l'avant-dernier, je crois. Mais j'ai pas
les titres. C'est une James Bond girl française. D'ailleurs, c'est sa vraie voix qu'on entend. C'était Eva Green, c'était Daniel Craig, et donc oui. C'était Casino Royale. C'est avant la scène de poker. Allez, second extrait.
Consigne de sécurité, les passagers sont priés de ne pas laisser leur bagage non accompagné.
Ja, mein Büro hat ein Auto reserviert.
Un moment, bitte.
Dankeschön. La Chine met en garde la flotte britannique.
Si vous voulez bien signer ici, monsieur Bond. Ce sont les assurances que vous prendrez pour couvrir votre magnifique nouvelle voiture. Vous faut-il une assurance collision?
Oui.
Incendie?
Probablement.
Pour dommages causés à tiers?
Oui, tout à fait.
Préjudice corporel?
Que Dieu m'en garde, mais un accident, ça peut arriver.
À vous plus souvent qu'à votre tour.
Bon, cela concerne l'usure normale du véhicule. Aurais-je besoin d'autres protections?
Seulement contre moi, 007, si vous ne me ramenez pas cette voiture en parfait état. On y va.
On y va.
Votre nouvelle BMW 750, équipée des subtilités habituelles. Mitrailleuse, fusée, GPS, le fameux système.
Bienvenue, veuillez attacher votre ceinture et obéir aux consignes pour votre sécurité.
Je vous sais plus attentif à une voix féminine.
Cette voix m'est familière.
Je reste de glace devant les détails sordides de vos frasques. Continuons, voulez-vous? Votre nouveau téléphone. Parlez ici et écoutez-la.
C'est donc ça qui m'échappait depuis si longtemps.
Ah, regardez, nous y avons inclus aussi... un scanner pour empreintes digitales et un système de sécurité qui utilise 20 000 volts. Et ceci, je suis particulièrement fier de cette trouvaille. C'est la commande à distance de votre voiture. Tapez deux fois. Une. Deux. Et là, effleurez de votre doigt très doucement la surface du pad pour conduire le véhicule.
Bon, alors le fait qu'il y ait des problèmes avec la Chine, ça n'a pas forcément donné de grands indices puisque ça se passe pratiquement
dans la glace.
James Bond.
C'est celui qui se passe dans la glace, alors c'est soit demain,
mais
demain jamais,
je sais plus. Mais la BMW qui se conduit toute seule, c'était demain... Non, c'était meurt un autre jour.
Voilà, je confonds toujours. Mais j'avais trouvé
oui, mais
ceci.
Moi, en fait, je ne m'en rappelais plus.
Et ça, c'est la période Brosnan.
Oui, le moment où on faisait du placement de produits. En veux-tu, en voilà. Troisième extrait.
Thank you.
doit y avoir une petite erreur, je n'ai rien commandé.
Il n'y a pas d'erreur. Nous avons bien eu des instructions avec les compliments de M. Willard White. Huître à l'Andalouse, Chachelic, amuse-gueule, côte de bœuf au jus, salade utopie. Et pour le dessert, la pièce de résistance. Notre bombe surprise.
Ah ! Cette bombe semble étonnante. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Ah, mais si je vous le disais, il n'y aurait pas de surprise, n'est-ce pas, madame ?
Que madame veuille s'asseoir.
Merci.
Ça ne prendra qu'un moment et nous vous laisserons en paix.
Le vin, monsieur. Mouton Rothschild 55.
On peut servir.
Faites donc.
Un choix judicieux, si je puis dire.
C'est moi qui serai juge. C'est un peu violent. Pas le bouchon, votre aftershave. Il gâche toute la saveur de ce vin. Mais ce vin est vraiment excellent. Quoique pour un tel festin, un Bordeaux ferait mieux l'affaire.
Bien sûr. Hélas, monsieur, notre cave est plutôt pauvre pour ce qui est du Bordeaux.
Le mouton Rothschild en est un. Et j'avais bien senti l'aftershave avant le vin. Et j'ai bien senti en même temps le rat.
Ah ah, et en plus, il est fin œnologue, ce James Bond, qu'il est fort. C'était Sean Connery qu'on entendait.
Sean Connery, hein.
Et ça se passait sur un bateau.
Non.
C'était Les diamants sont éternels.
Pas vu.
Allez, quatrième extrait.
Monsieur Anderson vous attend, monsieur.
Vous ne venez pas avec moi?
Monsieur Anderson préfère vous voir en tête à tête.
Entrez, je vous prie.
Monsieur Anderson?
À votre service. Vous n'étiez encore jamais venu au Japon, n'est-ce pas?
Non, jamais.
Je vis ici moi-même depuis près de 28 ans et je commence maintenant seulement à m'y retrouver. Votre contact principal et vital sera Tanaka.
Tanaka?
Le chef des services secrets japonais. Son identité est certainement un des secrets les mieux gardés du Japon.
Quand le verrai-je?
Vous verrez Tigre ce soir.
Chin-chin?
Chin-chin.
De la vodka russe, c'est fameux.
Oui, je la tiens du portier de l'ambassade soviétique à Tokyo. En plus de certaines autres choses. Écoutez, je crois que la théorie de Londres comme quoi ces vaisseaux spatiaux partent de ce pays serait en fait exacte. J'ignore comment et où, et ne me demandez pas qui les lance non plus, mais j'ai comme une vague idée qu'il y a une puissance étrangère majeure dissimulée derrière ça.
Selon vous, ce n'est pas la Russie ni le Japon.
Non, non, ce n'est pas la Russie, mon vieux. Ça, je vous l'affirme.
Alors, Sean Connery encore, Marine, reprends-toi.
Oui, c'est ça, encore Sean Connery. Et c'est un extrait en fait des 10 premières minutes du film, donc c'est pratique, enfin c'est la deuxième scène à peu près. Ça se passe au Japon.
Aucune idée.
C'était On ne vit que deux fois.
Non, mais moi je suis nul en James Bond, j'en ai vu 4 dans ma vie.
Mais non, mais parce qu'en fait, en même temps, j'ai en train de me dire on ne meurt qu'un autre jour,
au Japon,
on ne vit que deux fois, je m'embrouille toute seule. Il est temps de finir ce quiz. On va revenir dans les récents maintenant pour le cinquième extrait, un petit indice. Le méchant est français.
Il faut encore quelle longueur de pipeline?
Dans l'idéal,
2000 kilomètres.
Pas d'objection.
Non.
Aucune objection.
Pas de mon côté.
Transférons les fonds depuis notre holding sibérienne.
Ça marche.
Quelle est la politique des Américains?
Pour la CIA, un dictateur de plus ou de moins du moment qu'ils y trouvent leur compte.
Mais quand ils découvriront qu'on les a bernés,
je travaille là-dessus.
Tu
sûr que le projet Tierra occupe utilement le nord de Grundo.
Peut-être qu'on devrait se focaliser sur les Canadiens.
C'est la ressource la plus précieuse au monde. Il faut que nous en contrôlions le plus possible.
La Bolivie est la priorité des priorités.
Puis-je donner un avis ?
Je trouve que vous feriez mieux de réunir votre club autre part.
Tu as donné trop d'indices. Alors effectivement, c'est Mathieu Amalric. Effectivement, j'ai vu le film et je me souviens plus du titre.
C'était Quantum of Solace.
Ah, voilà.
Et c'est une scène où il y a plein de méchants qui sont devant un opéra et qui se parlent entre eux par des micros. Voilà. Dont Mathieu Amalric. Que t'es pas d'ailleurs au top de sa forme, en fait, dans ce film. Bon.
Non, mais quand tu joues un méchant, avec tes Français, voilà. Enfin, ça se passe
lui, il avait vraiment fait le minimum syndical, quoi. C'était bon.
Voilà. C'était pas la première fois qu'il jouait un méchant aussi, Amalric, dans un film américain, me semble-t-il. Mais là encore, perte de mémoire. Donc, on passe à la suite. Merci Marine d'avoir préparé ce petit blind test spécial 007.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
Et s'en passera aisément.
Sur Divergence FM.
Et on termine donc avec le cinémètre. Ça, c'est l'actualité de cette semaine, Montpellier-Rennes. On va écouter Stefano Mordini qui présente Hachi Eo. Parce que je n'ai pas fait d'italien, donc voilà, c'est à peu près comme ça. Donc, il est question eh bien, de parler du cinéma italien, comment il se porte et comment le rendre visible en Italie. Et puis, est-ce que finalement Berlusconi a permis au cinéma d'exister ?
Poi non credo che
je pense pas que le bon cinéma ça n'est pas enfin qu'il n'y ait pas de bon cinéma parce qu'il y a Berlusconi dans les enfin en politique quoi.
Oggi fare del cinema di qualità è difficile in Italia, ma è già difficile da 10
ils ont pas su créer un lien avec le public, ils ont pas fait attention et donc ça fait plus de 10 ans, ça fait 15 ans que de toute façon, c'est très difficile qu'il y a plus de cinéma de qualité en Italie.
Ci sono ottimi film italiani.
Il y a des très bons films italiens qui sont des films très petits, mais c'est très difficile de les voir en salle, de les faire sortir.
Devo dire che negli ultimi due anni,
les deux dernières années, entre Cannes et Berlin, le cinéma italien a obtenu vraiment une reconnaissance.
Io sono appena tornato da Busan in Corea.
Il y a du cinéma italien de qualité. Le problème, c'est comment le produire et comment vraiment le faire sortir en salle. L'année dernière, à Busan, le film qui a gagné, il y a une section pour les premiers et les deuxièmes films, c'était un film italien. Donc c'est plus un problème vraiment de faire naître ces films qui soient financés et qui sortent en salle.
Voilà, donc on va passer maintenant au Maroc avec Nabil Ayouch qui présente Les Chevaux de Dieu au Cinémed. Le Maroc a changé, le cinéma a été libéré, mais il y a toujours peu d'écrans. Alors Nabil Ayouch a lancé donc cette année ou l'année dernière Images pour tous qui a pour objet de créer des salles de cinéma numérique. Il y en a 10 en 2009 dans le monde rural et périurbain, l'écoute.
Le Maroc, par rapport il y a 12, 13, 14, 15 ans, il a changé, il a évolué. À l'époque d'Ali Zawa, à l'époque de Mektoub, c'était bien plus compliqué de faire des films et de les laisser passer et de les faire arriver sur les écrans. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Depuis que Mohamed VI, le nouveau roi, est arrivé au pouvoir, il a libéré des énergies, il a libéré des espaces, y compris dans le domaine culturel. Après, ça ne veut pas dire que ça va se passer simplement. Je ne sais pas ce que ce film va susciter comme réaction. Il faut quand même prendre conscience qu'au Maroc, quasiment toutes les salles ont disparu. Il reste à peu près 45 ou 46 salles dans tout le pays. En France, pour vous donner un ordre d'idée, il y en a 5000. Et il y a à peine deux fois plus d'habitants. Donc pour vous donner le ratio, toutes les salles de périphérie des grandes villes ont disparu. Toutes. Les seules qui restent, c'est dans le centre-ville de Casa, Rabat, Tanger, Tétouan, Marrakech. Même Agadir, il n'y a plus de salles. Donc pour toute une partie de la population, l'accès au film est impossible. Je ne parle même pas de film de la diversité culturelle. Je parle simplement d'accès au film. Et alors imaginez bien, de venir dans le centre-ville, c'est 5 euros la place. Avant, les salles qu'il y avait dans leur quartier, c'était 50 centimes d'euros, 60 centimes d'euros. Ils avaient à la limite les moyens. Bon, maintenant, elles ont fermé. Mais si en plus, il faut prendre un taxi, des transports en commun et qu'ils sont une famille de 4-5 personnes, c'est juste impossible. Donc, il y a un moment où quand des gens ne peuvent plus aller vers la culture, d'abord, je trouve ça dramatique, parce que les salles de cinéma, elles ont un rôle qui vont bien au-delà de celui de montrer des films. Mais surtout, je pense qu'à ce moment-là, c'est au film et à la culture d'aller vers eux. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne dis pas qu'on va y arriver partout, mais on va essayer de le faire le plus possible.
Voilà, donc ça c'était Nabil Ayouch, le Marocain. On devait écouter Merzak Alouache, l'Algérien, mais on l'écoutera la semaine prochaine parce qu'on reparlera du Cinémed. Donc c'était un petit état des lieux de ce qu'était le cinéma dans les pays du bassin méditerranéen.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Et on termine avec l'agenda au Diagonal demain, 1er novembre à 17h45, avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier. C'est Regards sur le cinéma algérien qui présente cet hommage à René Vautier. Le vendredi 2 à 18h, une avant-première dans le cadre du Cinémed. C'est Héritage de l'actrice Yam Abbas. Et puis toujours vendredi 2 novembre à 20h30, salle Rabelais, c'est Une nuit en enfer, un hommage à Christopher Lee. Emmanu y sera et nous fera un petit topo la semaine prochaine. Le samedi 3 à 17h45, c'est Au-delà des collines de Christiane Mungiu, qui était un des vainqueurs de Cannes. C'est au Diagonal, c'est une avant-première. Et puis aussi avant-première et fin de festival au Cinémed, au Corum, Tutti i Santi Giorni de Paolo Virzi. Et puis on termine au Diago le lundi 5 novembre à 19h50, La pirogue de Christiane Mungiu. Encore, c'est une séance suivie de débat avec Amnesty International.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Bon, Marine, on a fait une petite pause au Cinémed, mais on va y retourner.
Oui, et la semaine prochaine, je vous ferai un petit bilan. Voilà. Okay. Et je vous parlerai également de New York dans un tout autre registre.
À la semaine prochaine. Merci à Bruno.
Et
à
l'émission technique. 24 notes secondes sera consacrée juste après à Laurence Darabi. Et un grand merci à Bruno.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.